L'heure du psy, avec le docteur Israël Feldman.
Bien, effectivement, c'est le docteur Israël Feldman de nouveau pour vous passionner, j'espère. Donc aujourd'hui, j'ai invité le docteur Laurent Jaïs, qui est de passage en Israël. Il habite en France autrement. Et donc, je suis très heureux de t'accueillir, Laurent, aujourd'hui.
Merci, Israël.
Voilà, et donc, on va d'abord faire ta connaissance. Voilà, parle-nous un peu de toi. Est-ce que tu es né en France? Est-ce que Jaïs, est-ce que c'est de quelle origine en tant que juif, je veux dire.
Alors, c'est toujours difficile de parler de soi. Alors, moi, je suis né en Algérie.
Oui.
Donc, comme beaucoup, je suis parti en 62. Donc, je suis né en 56, donc j'ai pas de souvenir d'Algérie d'ailleurs, c'est bizarre. En tant que psy, j'ai que quelques images violentes qui me reviennent, mais aucun souvenir.
Pourtant, tu avais 8 ans lorsque tu
es parti. 6 ans.
6 ans quand tu es parti.
Ouais, 6 ans. Oui, c'est bizarre.
Oui.
Ça m'interpelle d'ailleurs.
Oui.
Et voilà, donc Jaïs, ça vient de Chai, la vie, donc c'est un nom prédestiné pour être médecin.
Oui.
Donc Yaïch en judéo-arabe, c'est-à-dire qu'ils vivent.
Oui.
Donc l'origine de la famille, ma mère est née à Sétif, mon père à Constantine, moi je suis né à Constantine.
Frontière tunisienne là-bas.
Voilà, pas très très loin. Et le père de ma mère était d'Alep. Donc,
en Syrie.
Oui, en Syrie. Et il est venu très tôt. Il est venu très tôt avec ses parents donc pour le commerce du grain, du tabac, en Algérie. Je ne sais pas très bien aussi pourquoi le périple d'Alep à Sétif. Donc voilà.
Oui.
Et puis donc en 62, on est venu comme beaucoup donc à Paris. On a un peu pérégriné. Et puis. J'ai fait mes études ensuite de médecine à Paris 13.
Alors, juste avant d'arriver à cela, on sait que le transfert, entre guillemets, depuis l'Algérie jusqu'en France a été souvent traumatique pour beaucoup de familles. Est-ce que ça a été le cas dans ta famille? Est-ce que tu as ressenti justement ce choc?
Le choc, je l'ai ressenti, effectivement, les souvenirs que j'ai, c'est de l'école primaire. Bon, déjà, on était plusieurs familles dans le même appartement, donc on a changé souvent d'appartement. J'étais avec mon oncle, ma grand-mère, mes deux grand-mères, une famille de 5 enfants. Enfin, quand on est arrivé, on n'était que 3, donc il y en a eu 2 autres, j'ai 4 frères.
Oui.
Il y a 2 qui sont nés à Paris. Ce qui était traumatisant, effectivement, c'était à l'école. Donc j'ai des souvenirs d'école. Au tout début, l'adaptation n'était pas facile. L'antisémitisme aussi, parce qu'on s'est retrouvé dans le 16e, donc on a pu trouver un grand appartement après avoir séjourné à droite à gauche.
Oui.
Et là, à l'école, c'était pas facile. On me faisait remarquer que j'étais juif dans le 16e. C'est pas comme maintenant, il y avait beaucoup de juifs à l'époque. Donc,
mais quand tu dis remarquer, c'est-à-dire qu'il y avait des insultes en tant que juif?
C'est pas des insultes, mais un jour, je me rappelle, mon père avait été voir la directrice, parce qu'un gamin m'avait dit « Ouais, toi, tu as tué le Christ.
Ah, » Et
donc, j'étais tout jeune, je dis à mon père « Mais c'est vrai que j'ai tué le Christ, qu'est-ce qui s'est passé, etc. » Et donc, voilà. Mais sinon, j'ai pas souffert vraiment. Après, j'ai plutôt souffert de la différence de classe quand j'étais à Janson de Sailly, où c'était très très snob à l'époque, très huppé, avec beaucoup de noms particules. Donc, heureusement qu'il y avait les enfants des bonnes espagnoles avec qui j'étais copain. Mais sinon, j'étais un peu. Voilà. Mais bon, j'ai pas plus que ça souffert. Hein, donc, au contraire, ça m'a aidé à me construire ma carapace. Voilà.
Oui. Et ta famille était religieuse, enfin
les juifs de Constantine sont traditionnalistes, hein, donc ils sont religieux, ils sont traditionnalistes, voilà. Donc c'est une pratique
D'accord.
Habituel, donc ni trop religieux, mais très, très versé dans les traditions. On a un office pour Kippour, on est toujours avec les descendants du rabbin Sidi Fredj, qui était un rabbin très connu à Constantine.
Et d'accord.
On perpétue voilà, ce souvenir pour les fêtes de Tichri, on se réunit, voilà.
D'accord. Donc, tu as été à Janson de Saïs, qui est un lycée UP, effectivement, avec bonne renommée. Et donc, ensuite, tu dis que tu as attaqué médecine. Alors, pourquoi médecine ?
Après Janson, on est reparti. On était après dans le 11e et j'étais à Charlemagne.
Ah, d'accord, oui.
Et pourquoi médecine ? Je suis l'aîné d'une famille de 5.
Ah, tu étais l'aîné, d'accord.
Voilà, oui. Je suis l'aîné d'une famille de 5. Moi, je voulais faire du cinéma, ce qui me passionnait.
C'est pas trop tard.
Hein ? Oui, j'ai commencé. C'est pas trop tard, j'ai commencé. Donc.
Très bien.
Mais voilà, donc il y avait la pression parentale, l'aîné d'une famille de 5. Mon père n'avait pas pu faire d'études avec les lois raciales. Donc,
je veux dire les lois de Vichy, tu veux dire.
Voilà. Les lois de Vichy, donc finalement ces lois de Vichy, ils avaient tous les professeurs juifs donc avaient été révoqués et ils faisaient cours voilà, aux autres, donc ils ont un excellent enseignement.
Bon, d'accord.
Mais voilà, donc je me suis dit bon, je veux lui faire plaisir, c'est médecin ou avocat, donc je vais lui faire médecine, je vais rater, comme ça après je pourrais préparer l'IDEC.
D'accord.
Et malheureusement j'ai réussi médecine.
D'accord. Oui, alors donc tu as fait médecine à Paris 13, donc c'est à Bobigny, ça ou...
Voilà.
Oui.
Donc pourquoi Paris 13 alors que j'habitais Paris dans le 11e ?
Oui.
Donc j'avais un cousin là-bas et puis là, la fac me plaisait, c'était une fac expérimentale.
C'est vrai.
Le doyen Cornillot était très, très actif. Bon, c'était après 68, il avait créé une toute petite fac. À Bobigny, donc c'était vraiment... C'est une fac novatrice, hein, d'ailleurs, puisque les premiers stages de médecins généralistes, de spécialistes en médecine générale, et puis surtout au niveau de ce qu'il avait appelé le DUMENAT, le diplôme universitaire de médecine naturelle, donc c'était lui qui a commencé à faire ça, donc il a été très discrédité, ceux qui ont raison toujours trop tôt.
Ça
se font tirer dessus, donc Cornillot était vraiment un doyen franc-tireur. Je me voyais mal dans les ambiances de médecine classique parisienne à l'époque, très traditionnelle, avec très, très, très bourgeoise. Donc ça me convenait bien à Bobigny, même si c'était un peu la galère pour y aller, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le métro, ni le...
Donc, RER.
Pas le RER, il fallait prendre le métro, après un bus et après marcher. Donc ça se méritait.
C'est sûr.
Et c'était une petite fac, donc maintenant elle a changé, mais avant il y avait un vieil amphi, quand il pleuvait, donc voilà, c'était un peu folklorique au départ.
Oui.
Il n'y avait pas de cafétéria, donc on ne pouvait pas manger. Bon, quand on mangeait cachère, on ne pouvait pas.
Bien sûr,
donc on venait avec son sandwich. Et voilà.
Et il y avait beaucoup de juifs aussi avec toi, parce qu'en général...
Alors à Bobigny, il y avait, comme c'était dans le 93, il y avait beaucoup de juifs qui venaient du 95, du 93.
Oui.
À l'époque, il y en avait.
Donc, maintenant, il y a beaucoup de musulmans. Hein.
maintenant, il y a des voiles et tout, donc c'est, ça, c'est une fac qui change. Je ne donne plus qu'un cours maintenant en médecine ostéopathique et posturologie par an. Je vois le changement, effectivement, qui est un peu inquiétant.
Oui.
Et puis il n'y a plus beaucoup de juifs maintenant dans le 93 et 95. Hein. Donc,
oui.
J'ai vu hier un film justement à la Cinémathèque ici sur les profs en territoire perdu de la République. C'est assez inquiétant.
C'est assez
inquiétant ce qui se passe. Ils interrogent des profs et on voit leur désarroi. On voit la... Bon.
Alors, donc, tu as fait médecine et après, tu as voulu faire une spécialisation. Laquelle ?
Alors, moi, j'ai toujours... pour moi, faire médecine, ça aurait été mon rêve, c'était justement de traiter avec les mains et avec la parole. Donc, très tôt, l'ostéopathie, j'avais vu un rebouteux très jeune qui avait soigné mon oncle pour une entorse, ça m'avait marqué. Donc, je me suis dit, l'ostéopathie, ça m'intéressait bien. Et donc, ça tombait bien, parce qu'à Bobigny, donc, le premier enseignement d'ostéopathie a eu lieu en 82, du Ménat. Donc je me suis effectivement engouffré dans cette brèche. J'ai participé au premier enseignement d'ostéopathie pour les médecins.
Mais tu as fait psychiatrie aussi?
Alors, j'ai fait psychiatrie en parallèle. Donc,
en parallèle, d'accord.
Pour moi, la psychiatrie, c'était important. Voilà, quand on traite le corps...
Pour traiter l'esprit.
Donc, pour moi, c'était fondamental. Et à Bobigny, il y avait les Bovici, il y avait plein de profs très, très compétents. Mais comme dans toutes les facs de médecine, j'étais tout le temps sidéré. Avant, c'était 7 ans, médecine. Et on n'avait qu'une dizaine d'heures de psychiatrie. Donc je me suis dit, c'est quand même incroyable.
Bien sûr.
Comme médecine, la psychiatrie qui est fondamentale pour toutes les spécialités. Je veux dire,
surtout même que la France a été à l'honneur au point de vue historique en psychiatrie.
Oui. Donc j'ai fait, dès que j'ai pu, donc dès la sixième année, donc à l'époque on avait les CES, certificats d'études spéciales, donc j'ai passé le probatoire, j'ai réussi l'examen, et puis j'ai fait psychiatrie, donc ce qui me permettait j'ai pas fait complètement à fond psychiatrie, parce que moi ça m'intéressait. Le parcours de Steele, l'inventeur de l'ostéopathie, est très très éclairant à ce niveau-là.
Oui.
Steele a découvert l'ostéopathie en 1874. Donc avant, il y avait des techniques de reboutement, des techniques de manipulation, mais pas une véritable médecine. Quand on connaît le parcours de Steele, son père était pasteur, qui avait été évangélisé les Indiens Pawnee dans le Missouri. Lui-même, Steele avait fait ses classes, il avait fait médecine, mais à l'époque ça ne durait pas autant, mais il avait fait ses classes pendant la guerre de sécession, donc il était très... Voilà, il adorait l'anatomie, avec le contact des Indiens, donc il a, pendant la guerre de sécession, était chirurgien, oui, donc sûr. Tout ce qui était mécanisme. Et puis, il était aussi paysan laboureur. Donc on est... Moi, je crois qu'il y a trois types de médecine. Il y a le iatro-mécanisme, le iatro-chimisme et le courant vitaliste. Le courant vitaliste, c'est le courant spirituel où on peut rattacher effectivement la psychiatrie, dont l'influence du père de Steele, pasteur évangélisant les Indiens. Le courant biomécanique, c'est tout ce qui est chirurgie, et également cette médecine magnifique qui est l'ostéopathie, on redonne la mobilité là où il n'y en a plus. Ça va plus loin que la simple technique de reboutement ou de mobilisation. Donc, et Steele était à la fois ingénieur, il avait inventé des barates, il avait inventé des machines agricoles. Et puis, il était aussi fermier, donc tout le courant iatrochimique. Malheureusement, dans la médecine d'aujourd'hui, donc en Israël, je ne sais pas, mais en Europe et en France, c'est souvent le courant iatrochimique qui est là.
Sûr,
on donne un symptôme, un médicament souvent. Enfin, la médecine... et moins à l'écoute, aussi bien du corps que de la parole. Donc, le parcours de Steele me convenait très bien, et modestement, moi je voulais à la fois être à l'écoute du corps, être à l'écoute des signes, une douleur, parfois autre chose qu'un simple déplacement, pour parler,
mécanique,
mais c'est un terme impropre, déplacement à grippage articulaire, mais bon, voilà, faut voir ce qu'il y a derrière. Et puis, à Bobigny aussi, j'ai eu la chance de connaître le professeur Baron, qui était le père de la posturologie. Donc ça, c'est une médecine très peu connue et qui est aux confins des neurosciences et de l'ostéopathie, de tout un tas de médecines. Donc ça me permettait de comprendre aussi et de faire le lien entre ce terme que j'aime pas, qui s'appelle la psychosomatique, et certaines douleurs, et d'expliquer de façon tout à fait... neurologique, donc ce qui se passait. Donc la posturologie, il faudra peut-être préciser.
On va préciser, mais on va parler d'abord de l'ostéopathie. Comment est-ce que tu la définirais pour nos auditeurs?
Alors moi, je fais un type d'ostéopathie particulière, donc j'ai commencé en même temps que la posturologie, c'est pour ça que j'ai une vision vraiment très neurosciences.
D'accord.
Alors l'ostéopathie, c'est un peu le pataquès en France. Donc maintenant, il y a presque 2 ostéopathes pour un habitant. Donc il y a plusieurs écoles. Avant, il n'y avait que les médecins qui pouvaient faire légalement. Après, il y a une dérogation pour les kinés. Et puis Kouchner a ouvert à toutes les écoles. Ce qui a été effectivement... Donc beaucoup de gens se sont groupés pour créer des écoles. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de formations. Donc, plus ou moins, c'est disparate, avec plus ou moins sérieuse. Donc là, il y a eu un petit peu, on a séparé un peu le bon grain d'ivraie. Et donc, je crois qu'il y a moins d'écoles maintenant qui forment, ce qui est mieux parce que effectivement, donc il y en a beaucoup qui étaient formés, des jeunes qui payaient des études, etc., pour se retrouver après sans trop de boulot. Donc c'était un peu catastrophique. Donc bon, moi je peux parler que de l'ostéopathie médicale hein, que je connais. Oui, donc oui, pour l'ostéopathie, c'est le terme ostéopathie est mauvais hein, puisque en tant que psychiatre, on utilise et on étudie les mots et l'étymologie. Ostéopathie, donc étymologiquement, ça veut dire pathologie osseuse. Donc,
oui, c'est ça.
Donc c'est pas une pathologie osseuse, mais bon, par rapport à Steele qui avait donné ce terme, par rapport à l'inventeur de l'ostéopathie, on l'a gardé.
D'accord.
De même qu'en thérapie brève, donc j'utilise l'hypnose, qui est aussi un très mauvais terme. Donc on a gardé ce terme-là. Donc l'ostéopathie, c'est simplement redonner de la mobilité là où il n'y en a plus. Et pour cela, on utilise différents leviers, donc qui peuvent être des leviers mécaniques, osseux, mais on peut jouer aussi au niveau ligamentaire, au niveau viscéral, au niveau des fascias, qui sont des enveloppes qui recouvrent les muscles. Au niveau du crâne, je pratique beaucoup l'ostéopathie crânienne. Donc, un des élèves de Steele, qui s'appelait Sutherland, a travaillé sur la micromobilité du crâne. Et voilà. Donc, en fait, c'est une médecine dite holistique où on donne au corps les moyens de se guérir lui-même. Et pour cela, on utilise soit les manipulations, soit des techniques indirectes. Et on dit que la structure gouverne la fonction. S'il y a une structure qui est perturbée, ça peut perturber la fonction de voisinage, non seulement osseux, mais à côté. Et la fonction aussi a une action sur la structure. Et là, on retombe dans effectivement tous les problèmes qui t'intéressent particulièrement, la psychosomatique. Voilà, donc c'est une médecine très intéressante parce qu'on aborde le sujet. C'est pas une technique de rebootement où il y a un grippage quelque part, on le débloque. Et non, il y a un traitement de test. D'abord, il y a une mise en... Moi, je pratique vraiment l'ostéopathie anglo-saxonne hein, des élèves de Steele. Hein. Un des élèves de Steele, qui était Little John, a introduit l'ostéopathie en Europe. Il était médaille d'or à la faculté d'Edimbourg. Il était chirurgien également. Et c'est ce courant-là hein, qu'il utilisait. Il y a eu un autre courant en France qui était plutôt... qui venait de rhumatologues, mais qui, eux, c'était plus des... Au départ, ils s'appelaient ostéothérapeutes ou vertébrothérapeutes. Ils ne travaillaient que sur la vertèbre, mais ils ont évolué aussi. Et bon, maintenant, ils s'appellent ostéopathes.
D'accord. Voilà. Mais avant de commencer les soins en ostéopathie, est-ce que tu fais un bilan, par exemple il peut y avoir, je ne sais pas, une autre...
Moi, je suis médecin d'abord. Pour moi, c'est vraiment important. Il faut un diagnostic.
C'est ça, c'est ce que je veux dire.
Toute douleur, tout problème peut évoquer beaucoup, beaucoup de choses.
Exactement.
Et il faut vraiment faire un diagnostic médical. Et si on n'est pas médecin, donc travailler en collaboration très étroite avec des médecins, parce que ce n'est pas anodin de manipuler, ce n'est pas anodin de perdre du temps pour des diagnostics, ce n'est pas facile même quand on est médecin de faire des diagnostics, mais il y a certaines pathologies déroutantes, il faut vraiment s'aider de tout ce qu'on peut utiliser en radiologie, en biologie, savoir si c'est une cause mécanique, infectieuse, inflammatoire, si c'est une polyarthrite, donc c'est pas pareil. On peut agir également dans certaines autres pathologies avec les techniques physiques, mais il faut bien avoir la notion de diagnostic et de complémentarité.
Oui, tout à fait.
Pas vouloir tout traiter avec l'ostéopathie.
Donc, ça rejoint ce que tu disais par rapport à certaines écoles qui manquaient un peu de sérieux et qui ont été...
Oui, mais bon, je ne suis pas là pour critiquer.
Non, non, on n'est pas là pour critiquer, simplement pour dire...
Le problème du patient, hein, ce qu'on voit à Paris...
Ce n'est pas du charlatanisme.
Ce qu'on voit à Paris, c'est que les gens, quand ils vont voir un ostéopathe, ils ne savent pas s'il est médecin, s'il est non médecin, quelle école il a fait, comment il va, quelle technique il va utiliser, donc... Donc, bon, les patientèles se font par le bouche à oreille, hein, généralement.
Oui.
Donc, mais c'est vrai qu'il ne faut pas aller voir n'importe qui, je pense, sur l'annuaire. Et puis, pour une douleur, je pense qu'il faut vraiment se renseigner avant.
Tout à fait, oui. Donc, on va parler maintenant de la posturologie, avant de faire le lien entre ces trois spécialités. Donc, la posturologie, tu peux en dire un mot
Pour moi, c'est la médecine, c'est une même spécialité. Donc, c'est la posturologie, la grande chance que j'ai eue, c'est de commencer en même temps que l'ostéopathie. Le professeur Baron, qui était un ophtalmo, il avait travaillé beaucoup avec un japonais, ORL, qui s'appelait Fukuda. Et ils ont étudié tous les capteurs qui interviennent sur le tonus musculaire. Bon, tous ces capteurs-là, donc, à l'époque, donc, il y avait des techniques avec des plateformes qui ont beaucoup évolué maintenant, de posturographie. Il y avait un examen postural aussi qui a beaucoup évolué. Et on mettait en rapport des douleurs, des pathologies un peu déroutantes avec des perturbations de ce tonus musculaire.
D'accord.
Et ces capteurs qui interviennent sur le tonus musculaire sont au nombre de 5. Il y a le capteur visuel, donc la vision centrale, la rétine, mais aussi toute l'oculomotricité, tous les muscles des yeux. Donc d'accord. On parlait de psychiatrie, mais l'ophtalmologie aussi, en médecine, il n'y avait qu'une dizaine d'heures. Hein. Donc c'était vraiment très enrichissant. Et là, c'était vraiment des neurosciences. On avait vraiment des outils pour mesurer ces perturbations. C'est tellement déroutant, ça a rebuté beaucoup de médecins. C'est assez complexe, la posturologie. Donc il y a le capteur visuel. En fait, c'est savoir, la posturologie, c'est comment l'homme se tient debout. Donc notion de statique et comment il se déplace. Donc, et ça depuis des siècles et des siècles, les physiologistes essayaient de savoir comment l'homme se tenait debout.
C'est ça.
Donc il y avait différents chercheurs. Donc,
la différence des animaux.
Voilà.
Oui.
Ce qui est, on va voir le lien aussi avec l'ostéopathie, où c'est très intéressant. Donc Romberg donc, avait travaillé beaucoup sur la vision centrale et périphérique. Florenz sur tout ce qui est appareil autolytique, ORL. Mmh. Par exemple, avant, on parlait de vertige, on voyait que les problèmes ORL, alors qu'une grande majorité de vertiges viennent des yeux,
très
des problèmes au niveau des yeux. Et puis de la mâchoire aussi, où j'ai été un des tout premiers à travailler là-dessus, donc à l'époque, sur les problèmes d'articulation temporomandibulaire, les rapports entre maxillaire supérieur et inférieur, le rapport que ça peut avoir sur la posture, les rapports que ça peut avoir avec les muscles des yeux. Donc c'est très complexe.
Comment peux expliquer ce rapport? Parce que les yeux, on comprend, mais...
Je vais l'expliquer. Donc d'accord. Je termine sur tous les capteurs qui
d'accord,
nous permettent de nous terminer debout.
Oui,
donc il y a la sole plantaire. Donc ça, c'est Magnus qui avait travaillé là-dessus. Donc c'est tous les problèmes d'équilibre au niveau des pieds, de semelles, etc. Il y a toute la proprioception de la colonne. La proprioception, c'est une espèce de sixième sens.
Oui.
C'est comment le corps arrive à se mettre en équilibre, en interférant, et s'il y a un capteur qui est déficient, donc il y a une espèce de plasticité du système qui permet de compenser. Donc toute la colonne, notamment la colonne cervicale, le bassin, etc.
Oui.
Donc on a parlé des capteurs visuels, on a parlé des capteurs manducateurs au niveau de la mâchoire. Donc une désaxation de la mâchoire, c'est comme un niveau à bulle. Donc si le niveau est penché, donc ça travaille sur toutes les étagères qui vont être penchées.
D'accord.
Et puis donc tout ce qui est au niveau vestibulaire, donc au niveau de l'oreille interne.
Oui, ça...
Donc il faut certaines pathologies, par exemple quand on a ce qu'on appelait le syndrome subjectif du polytraumatisé, je ne sais pas si tu as entendu
└└►
faisais tes études,
mais
que ce n'est pas du tout subjectif, c'est quand il y a un violent accident de voiture, un coup du lapin, il y a une espèce d'onde de choc qui est envoyée, qui perturbe à la fois la tonicité des muscles des yeux, de la mâchoire, de la colonne, des premières cervicales, et ça entraîne tout un tas de cortèges avec des patients qui vont de médecin en médecin, qui se plaignent de douleurs, d'insomnie, de maux de tête, de précordialgie, de bourdonnement, de vertiges paroxystiques, etc. De soif nocturne, ce qu'on appelle le syndrome mésencéphalique. On leur fait des examens, on ne trouve rien. Alors qu'il y a un examen postural tout simple à faire, on fait piétiner le patient, ce qu'on appelait le test de Fukuda. J'ai validé ce test-là.
On fait piétiner sur un appareil.
Sur place, alors, le test de Fukuda, les ORL le connaissent. Non, pas sur un appareil, dans une pièce au calme.
D'accord.
On ferme les yeux. Fukuda faisait tendre les bras, donc moi j'ai validé sans tendre les bras, en appelant le test de piétinement naturel.
Oui.
Parce que c'est l'anagramme de mon prénom, Laurent.
Naturel.
Mais bon, parce qu'on élimine les tensions des muscles postérieurs. Donc on voit si le patient doit bouger en principe de 30 degrés. En fermant les yeux. S'il fait 90 degrés, voire 180 degrés quand il y a des accidents de voiture, donc on voit qu'il y a un problème de tonus.
Oui.
Donc après, on a différents tests pour mettre en évidence les différents capteurs. Et puis, on peut enregistrer, puisque c'est des patients qui souffrent énormément, mais c'est souvent des accidents, donc il y a un aspect médico-légal. Ils vont souvent voir le psychiatre aussi, parce qu'une fois qu'en médecine, c'est simple. Hein, donc,
si on
comprend
quand
on ne sait pas, donc il y a trois choses. On dit trois choses, c'est l'âge, c'est l'arthrose, c'est psy, ou c'est viral. Voilà.
Voilà,
il faut que les médecins aient parfois l'humilité de dire « je ne sais pas ».
C'est ça. Ouais.
Et c'est le patient qui a tort, donc si le médecin n'a pas trouvé. Donc on fait ces bilans posturographiques qui sont validés. On a des plateformes qui mesurent avec des jauges de pression en fonction de l'examen postural qu'on a fait, ces différents capteurs. Donc le sujet est dans une cabine normalisée, il regarde un fil à plomb devant avec une simulation lumineuse calibrée. Mmh. Et on étudie en fermant les yeux, en ouvrant les yeux, avec une stimulation sur la plante des pieds, avec une intercuspidation, c'est-à-dire des petits éléments au niveau de la bouche. Et on voit quel est son centre de gravité, son centre de pression, on voit comment il se déplace d'avant en arrière, de gauche à droite, et si on améliore en jouant sur certains capteurs. Donc on arrive à suivre le sujet dans le temps, dans l'espace, et de voir l'amélioration en fonction des capteurs. Donc quand il y a un bilan avec des experts, j'ai rien contre les experts, mais les experts souvent travaillent pour des compagnies d'assurance, tantôt l'une, tantôt l'autre, donc souvent, ils n'écoutent pas trop le patient, ils connaissent tous ces examens-là, mais quand ils ont un bilan posturographique, donc là c'est vraiment plus du tout subjectif, mais objectif, et on peut d'abord aider le patient, lui faire reconnaître qu'il a un problème.
Un problème, oui.
Qu'il a une plainte et que ce n'est pas quelque chose d'une vue de l'esprit.
C'est sûr. C'est déjà,
très important. Et puis trouver une solution et améliorer, parce que c'est des patients qui souffrent en permanence.
Tout à fait.
Donc c'est des syndromes de déficience posturale qui vont entraîner une asymétrie du tonus postural avec des douleurs très fortes qui vont entraîner de l'arthrose et puis des blocages, des sciatiques et des hernies discales, etc. Donc il faut toujours essayer, et l'importance de l'ostéopathie et de la posturologie, c'est d'avoir un traitement étudiant.
C'est ça.
Et non un traitement symptomatique.
Je comprends.
Voilà.
Alors, une fois que le diagnostic est fait, que tu as vu quel était le problème au point de vue donc posturologique, maintenant les soins, comment vous faites pour soigner ?
Alors, ça va dépendre des pathologies.
Alors,
donc, je traite manuellement, généralement. Donc, s'il y a un problème postural, par exemple au niveau dentaire. Donc, mon épouse est dentiste aussi, posturologue. Il y a peu de dentistes posturologues dont on travaille dans le même cabinet. C'est très pratique. Si je vois qu'il faut faire un certain type de gouttière pour équilibrer sa posture, donc elle me fait cette gouttière et moi je vais manipuler, je vais rétablir un bon équilibre aussi avec quelques séances.
D'accord.
Et la gouttière servant d'espèce de béquille qui va me permettre à mon travail ostéopathique de tenir. Donc toujours des techniques très douces. Quand on parle d'ostéopathie, je pense qu'il faut privilégier les thérapeutes qui travaillent vraiment en douceur, il ne faut pas faire mal. L'ostéopathie, ça fait pas mal. Je ne sais pas, mais l'ostéopathie, ça ne doit pas faire mal. On ne doit pas voir souvent le patient. Donc, en principe, c'est 2-3 séances. Si au bout de 2-3 séances, il n'y a pas d'amélioration, il faut changer de thérapeute.
De thérapie. Oui. Thérapeute et thérapie.
Thérapie, peut-être pas, parce que l'ostéopathie, donc c'est très vaste.
D'accord.
Il ne faut pas décrédibiliser l'ostéopathie parce qu'on n'a pas eu un résultat. Mais effectivement, pour certaines hernies discales, il faut pas. Il y a des techniques qu'il faut faire très. Il faut faire très attention. Il faut pas travailler directement au niveau lombaire. Il faut céder de radio. Une hernie discale, là aussi, ce n'est pas la cause d'un problème. C'est qu'une conséquence. Donc, il faut traiter vraiment ce qui est en amont au-dessus. On peut modifier certains appuis. On peut travailler au-dessus. On peut des problèmes de tension, de bruxisme, de parafonction. Et là, on rejoint la psychiatrie avec les troubles du sommeil et toutes ces parafonctions qui interfèrent, le bruxisme, la déglutition dysfonctionnelle. Ça va avoir une action très forte pendant le sommeil où il y a une hypotonie complète, une atonie. Et dès que le sujet se réveille, il va avoir une tension très forte sur la colonne, par exemple. Et ça peut provoquer des névralgies cérébrobrachiales, des torticolis. Voilà, donc il faut, plutôt que de faire des infiltrations uniquement ou des manipulations, mais voir ce qui se passe en amont et en aval.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de traitement, par exemple, par...
C'est des traitements qui sont personnalisés. Il n'y a pas...
corticoïdes, par exemple, pour les...
On peut, quand il y a vraiment une douleur très très forte, il m'arrive de donner des corticoïdes,
d'accord,
bien sûr, quand il y a une hernie discale. On ne cède pas de la pharmacopée, mais ponctuellement. On peut faire des infiltrations sous-scopies si c'est nécessaire, selon le type de douleur. Mais après, on essaye de voir ce qui s'est passé, pourquoi le patient en est arrivé là. Donc, très peu de chirurgie, effectivement. Donc, je fais très peu opérer de patients pour les hernies discales.
D'accord.
Et la plupart des chirurgiens, maintenant, reviennent aussi des interventions. Donc, on opère que quand c'est une urgence, une sciatique paralysante, ou quand vraiment le sujet souffre énormément, que personne n'a pu le soulager.
Alors, maintenant... je sais, tu as dit tout à l'heure que tu n'aimais pas le terme psychosomatique. qu'est-ce que tu emploies comme terme, alors, entre le rapport entre l'esprit, entre guillemets, et le corps, puisque on sait que le tout ce qui touche, par exemple, au dos, est oui. tellement lié au problème psy. Alors, vas-y, comment tu...
Bah, par exemple, on parlait des parafonctions, hein, des oui. gens qui grincent les dents. Donc, donc, ou de la fibromyalgie aussi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, oui. j'ai publié sur la fibromyalgie qui pour moi était un problème de décompensation posturale, avec le capteur mandibulaire principalement.
Oui.
Et aussi, où il y a aussi des traumas, donc tu t'intéresses beaucoup à la victimologie, on a retrouvé oui. dans la fibromyalgie aussi des traumatismes d'enfance, ce qu'on appelle l'anglicisme... des abus sexuels, j'aime pas du tout ce terme, c'est la traduction de sexual abuse, donc ouais, c'est l'usage modéré de quelque chose qui
c'est agression sexuelle. Plutôt.
Voilà, donc toutes les violences sexuelles, les agressions, les, voilà, les problèmes d'inceste, de viol, etc. Donc ça crée des perturbations pendant le sommeil profond, pendant le sommeil paradoxal de rêve,
d'accord.
et les gens grincent donc, ou ont des douleurs de ventre, donc il faut rechercher ce qu'il y a derrière. Ceci dit, le seul fait de grincer les dents, peut être dû soit à un problème psychologique, soit à un problème mécanique, s'il y a des soins dentaires qui n'ont pas été faits, s'il y a une édentation, s'il y a une tension très forte. Mmh. J'ai beaucoup travaillé sur les problèmes de latéralisation. Hein, ceux qui sont dislatéralisés, non seulement c'est pas la main, mais la main, l'œil, le pied. Donc, et là, on revient avec le travail que j'ai fait sur la fibromyalgie. Donc, s'il y a un problème de tension musculaire pendant le sommeil, que le sujet se réveille avec le cou bloqué ou des douleurs ou des problèmes d'insomnie systématiquement à 4 heures du matin. Donc, au lieu de dire que c'est psychosomatique, donc que c'est quelque chose qui est déclenché par un psy, ce qui est vrai, il faut rechercher aussi les perturbations de capteurs.
Oui, bien sûr.
Et dans ce cas-là, on peut déjà mettre des petites gouttières, manipuler au niveau du crâne, donc aider fortement ce patient, et après faire... s'il y a un problème psychologique derrière, donc travailler avec des thérapies brèves que j'utilise, notamment en hypnose, en MDR. Donc, faut traiter les causes. Donc, c'est pour ça que le terme psychosomatique, les problèmes de ventre, peuvent être dus à des problèmes soit au niveau de fascia, soit au niveau lombaire, des causes mécaniques qui peuvent interférer. Et quand il y a une tension particulière, il y a une tension supplémentaire sur ce tonus qui va décompenser. Donc, le fait de dire psychosomatique... On ne fait pas un zona n'importe où, par exemple. On fait toujours un zona sur une zone de dysfonction.
Oui.
Donc,
justement, il y a une question que j'aimerais te poser. Est-ce qu'on peut, si on reprend l'exemple des agressions ou des violences sexuelles, retrouve effectivement chez les patients plus tard des pathologies dont tu viens de parler, est-ce qu'en passant par justement le corps, parce que je dis ça parce que je compte interviewer une physiothérapeute qui travaille avec les femmes qui ont été violées et qui a établi une technique justement de physiothérapie pour les aider à s'en sortir. Et on a fait ça aussi en Israël avec ceux qui avaient été torturés. Parce que quand les soldats sont pris à l'ennemi, par l'ennemi, en général, ils sont torturés dans notre région. Donc lorsqu'ils reviennent, évidemment, si on veut les faire parler, entre guillemets, devant un psy, ça ne marchera pas. Parce que c'est ce qu'on a essayé de faire sous la torture, de faire parler. Donc, on passe
travailler directement le corps aussi, ce n'est pas toujours évident.
Oui, ce n'est pas toujours
donc,
évident.
Donc il faut être bien formé pour le faire.
Voilà. Moi, alors ma question, c'était, est-ce qu'on peut, à partir du corps, finalement, arriver à des résultats sur le plan psychique? Non. Parce qu'on sait très bien que l'état de stress post-traumatique entraîne des problèmes graves.
Bah, tu es un très bon journaliste, parce que la transition,
voilà,
avec ce que j'allais faire. Moi,
bien.
Ce que j'appelle les thérapies brèves que j'utilise sont des thérapies posturales, pour moi.
D'accord.
Donc l'hypnose, bon, on garde le terme d'hypnose, même si, avec mon maître Roustan, j'appelle ça plutôt veille paradoxale,
oui, d'accord.
Ou psychatalyse même, hein, puisque c'est une interaction entre la conscience du conscient du patient et la conscience du conscient du thérapeute. Bon.
Oui.
Donc là, ce sont des thérapies qui passent par le corps, sans nécessairement toucher. On fait percevoir au patient certaines zones où il a été torturé, ou
agressé,
etc. Donc on repasse par une mentalisation, par une visualisation du corps.
Tout à fait, oui.
Et les cognitions qui sont afférentes. Sur l'EMDR, c'est-à-dire le MDR, c'est Eyes Motion Desensitization and Retraining.
Oui.
Donc c'est comment, quand il y a des traumas graves, des névroses post-traumatiques, on arrive à partir du mouvement des yeux, mais pas seulement les yeux, ça peut être aussi au niveau du toucher, en se concentrant sur le trauma et la perception qu'on en a eue et le ressenti au niveau du corps et ce qu'on aurait aimé ressentir à la place, donc à effectuer une espèce de foultage et de ces traumas. Donc ce sont des thérapies posturales qui passent par le corps, mais sans nécessairement passer par le toucher dans un premier temps. Donc Shapiro, c'est elle qui est une psychiatre américaine, psychologue plutôt. Elle avait travaillé sur les vétérans du Vietnam, qui étaient comme des Rambo cachés dans les montagnes, qui avaient vécu tant d'horreurs, de bombardements, viols, agressions, tortures, effectivement. Donc elle s'était rendue compte en les interrogeant, en les prenant en thérapie, que selon que l'affect qu'elle évoquait était positif ou négatif, les yeux partaient dans un sens ou dans l'autre. Donc elle a mis au point cette technique dans les années 75. Et voilà, de là est né le MDR. Et donc là, on travaille effectivement par les yeux, le rapport avec la posture aussi, et toute l'oculomotricité qui a un rapport sur tout le tonus. Et le passage par le corps et le passage par les affects. Après, il y a des thérapies psychocomportementales, il y a des thérapies corporelles qu'on utilise en sexologie. Mais moi, je ne passerai pas directement par le corps, mais je n'ai peut-être pas l'expérience pour les cas graves de traumatisme sexuel, etc.
Justement,
je pense.
Voilà, j'allais intervenir à ce niveau-là. Effectivement, bon, quelqu'un qui a été agressé sexuellement, c'est son corps qui... qui a été, j'allais dire, la monnaie d'échange pathologique. Effectivement, commencer tout de suite par le corps, alors que c'est là que ça s'est passé.
Mais ces patients, je les vois, parce que ces patients, souvent, gardent ça en eux. Ça ressort après une période d'amnésie. Et en ostéopathie, j'ai beaucoup de patients, effectivement, qui venaient me voir pour des problèmes d'épaule, pour d'autres problèmes de maux de tête, de migraines, etc. Et c'est... Là, c'est le langage non-verbal du corps. On voit comment ils réagissent quand on les touche, et on sent qu'il faut vraiment faire certaines techniques ou ne pas toucher certaines zones, et qu'il y a vraiment quelque chose derrière. Et on ne va pas d'emblée demander ce qui se passe. Donc, dès la première fois, surtout quand le patient vient pour autre chose, en ostéopathie. Donc, mais au cours de l'interrogatoire après, il ne faut pas hésiter à demander si, parce que souvent les patients, les médecins ne demandent pas si s'est passé quelque chose de grave, de psychologique sur le corps, s'il y a eu une agression, et là, et là les patients parlent, mais pas d'emblée. Les problèmes d'inceste aussi, il y a beaucoup de choses. Donc, avec ces thérapies brèves, l'hypnose, le MDR, avec des techniques ostéopathiques, si les patients viennent pour des raisons un peu détournées ou qu'ils ignorent eux-mêmes, on a vraiment un panel pour aborder le patient. Il n'y a pas de technique prédéterminée, il faut vraiment s'adapter au patient. Et ce qu'il nous apporte, verbalement et surtout au niveau du langage non-verbal.
Est-ce que tu utilises l'imagerie cérébrale? Parce qu'on a eu un congrès justement qui a été tenu en France sur la différence entre, disons, la schizophrénie et puis l'état de stress post-traumatique. Et justement, on a montré que finalement, ce n'était pas les mêmes zones qui étaient souvent atteintes. En imagerie cérébrale, on s'est rendu compte que c'est pas la même chose. Est-ce que tu utilises l'imagerie cérébrale?
C'est plutôt au niveau de la recherche. J'ai beaucoup travaillé en recherche, justement en posturologie, à l'hôpital de la Pitié, sur des sportifs de haut niveau, etc. Donc là, on pouvait utiliser, et quand je faisais des publications aussi au congrès de posturologie, là, on n'utilise pas l'IRM comme ça cabinet pour faire de la recherche, donc c'est... Mais effectivement, l'imagerie fonctionnelle, les PET scans et tout, on peut voir maintenant les zones qui sont activées. Mais c'est intéressant, donc pas au niveau thérapeutique, mais je pense...
Pas au niveau thérapeutique
parce ça, que... ça peut, effectivement, quand on travaille en hypnose, on peut activer certaines zones et d'autres. On peut, selon ce que l'on évoque, travailler sur certaines zones corticales, préfrontales, au niveau du gyrus singulaire. Donc on peut effectivement travailler là-dessus. Mais ça, c'est un travail de recherche, il faut qu'il y ait des publications, il faut qu'on nous dise exactement. Donc tout le monde ne dispose pas de ces outils-là. Des outils qui sont très chers, très performants. Il y a peu de... les PET scans, il y a des urgences autres où on a besoin des PET scans.
D'accord.
Mais s'il y a des publications, bien sûr, je suis preneur et j'adapterai mes techniques et ma façon d'aborder le patient en fonction.
Alors, une question que beaucoup se posent, tu as dit que ce sont des thérapies brèves. Tu connais bien sûr Boris Cyrulnik, le psychiatre qui a beaucoup travaillé sur la notion de résilience. Oui. Et on a fait un congrès ici à Tel Aviv et toute la discussion était est-ce que on obtient vraiment une résilience ou est-ce qu'on ne risque pas des années, parfois 20 ans plus tard, que tout revienne par rapport à cet état de stress post-traumatique. Est-ce que tu as, dans le temps maintenant, un recul pour voir si les thérapies que tu utilises, par exemple, bien tiennent, on va dire.
Oui, l'EMDR, c'est une technique remarquable.
Mais est-ce que ça tient, justement?
Ça tient, mais il faut souvent, après, c'est pas ça. Uniquement que de l'EMDR. Ça peut permettre de gagner des années de thérapie. Ça peut permettre de faire gagner beaucoup de temps en thérapie, mais il faut, selon le trauma qu'il y a eu... Mais effectivement, j'ai des cas quand même assez importants, donc même si je travaille surtout en tant qu'ostéopathe et posturologue, donc il y a des patients que je prends notamment dans les traumas graves, importants, et ça tient. Donc là, les cas récents, donc, j'ai une patiente qui était dans le Thalys. Dans le Thalys, c'est son mari, le franco-américain, qui s'est
dont on a beaucoup parlé,
jeté. Oui. Donc elle avait ses cauchemars récurrents. Elle a une Kalachnikov à quelques centimètres de sa tête. Son mari, elle l'a vu en sang avec
au
cou. Donc c'est des voilà, c'est des techniques qui sont remarquables parce qu'on gagne beaucoup de temps. Donc on enlève déjà ces images récurrentes, ces cauchemars. Mais bon, chaque patient est différent, chaque vécu est différent. Mmh. Mais je pense que d'abord ne pas nuire, primum non nocere. Et si on peut vraiment aider, voilà. Mais il faut s'aider de plusieurs thérapies, plusieurs thérapeutes. Mais l'EMDR est vraiment quand même une technique de choix dans les névrose post-traumatique grave.
Oui, c'est dans l'urgence, il y a intérêt à utiliser des méthodes comme ça. Une autre question, je sais qu'en Israël, sous l'influence sûrement des États-Unis, on travaille beaucoup maintenant en médecine sur la génétique, c'est-à-dire sur les gènes. Pas la génétique au sens du développement, mais les gènes. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'on est... vraiment beaucoup déterminé par nos gènes ou pas? Et ce qui donnerait, donc, comme tu as dit tout à l'heure, des tendances à des psychopathologies ou à des pathologies tout court. Tu en as parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est pas, on va pas tous faire, tous avoir la même pathologie. Est-ce que tu es au courant un peu de toutes ces recherches?
Alors, je pense qu'il y a des prédéterminations, mais que, voilà, entre l'inné et l'acquis, il y a toujours des grosses différences. Et il y a une plasticité du cerveau qui est énorme. Et donc, on peut beaucoup agir, même s'il y a une prédétermination. Le risque, notamment aux États-Unis, peut-être,
c'est
de déterminer, de faire des tests, de dire, voilà, on rentre dans telle case, il va avoir telle pathologie, etc.
Il ne pourra pas être engagé dans la société.
Donc, le cerveau a une plasticité, et le corps humain, en général, celui qui a fait ça connaissait bien son boulot, donc il y a beaucoup de possibilités d'adaptation. Mais je ne suis pas un grand spécialiste de la génétique et de toutes ces...
Mais en France, tu penses que la recherche avance dans ce domaine ou je sais qu'il y a une réticence quand même plus importante, par exemple, qu'aux États-Unis et en Israël?
Oui, il y a une recherche qui va avancer. Bientôt, on pourra avoir le codage sur Internet. Je sais que pour certaines pathologies, on peut prévoir les pathologies maintenant. Avec un test sanguin, on peut prévoir des maladies neurodégénératives, des maladies d'Alzheimer, on peut prévoir beaucoup de choses. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Donc, il faut... Les tests, on les a, on sait...
On touche à l'éthique, là, évidemment.
Donc, quand il y a un domaine préventif et qu'on peut agir pour certaines pathologies... coronarienne, neurologique, ok, mais quand c'est des pathologies où on sait qu'on ne peut pas faire grand-chose, c'est difficile. Donc, ça dépend vraiment, c'est vrai que ce problème va se poser, il faut qu'il y ait vraiment des chartes d'éthique importantes, parce que tout le monde pourra se faire ses tests sur Internet, en fonction du groupe sanguin, en fonction de tant de choses.
Il y a un risque de déviation sérieuse, là.
Oui.
Oui, alors... tu m'as tendu un peu la perce en disant que celui qui a inventé le corps, il s'y connaissait. Alors j'aborde, puisqu'on est en Israël, la dimension de la religion et de la foi. Je dis ça parce que, bon, moi-même je suis venu de France et à l'époque, je ne sais pas si ça a changé, mais de parler de foi ou de religion lorsque on est dans un domaine dit scientifique, c'était très mal vu, c'est-à-dire qu'on était à la limite du débile. Alors je sais que tu gardes le Shabbat, c'est ça, on dit en hébreu Shomer Shabbat, donc j'ai traduit. Comment tu vois cette articulation, et même pour ta pratique, le fait d'être religieux ?
Je ne suis pas Shomer Shabbat. Pratique plus ou moins, de temps en temps.
Paul m'avait dit, attention, n'appelle pas le Shabbat.
Non, mais je ne voilà, je suis pas...
Paul, c'était un médecin.
J'ai une pratique voilà, plutôt spinoziste. Donc je suis pratiquant. Et au niveau de la croyance, je me pose des questions comme beaucoup de monde. Mais pour moi, la pratique, voilà, je suis plus pratiquant que croyant, on pourrait dire. Pour moi, la pratique voilà, sert à transmettre beaucoup de choses. Bon, c'est un peu d'ironie hein, quand je dis ça, donc, au niveau de la croyance. Voilà, donc...
Mais lorsque tu dis la pratique, est-ce que c'est pour perpétuer, disons, la culture et la religion juive comme ça a été durant des siècles, ou est-ce que tu penses que ça peut aider aussi ? Bon, pourquoi je dis ça ? Parce que le docteur Henri Baruch, psychiatre, hein, qui avait dirigé l'hôpital psychiatrique de Charenton, lui a écrit beaucoup sur ce domaine. Il a même créé un test, le test tzadik, je crois, c'est-à-dire par rapport au comportement délinquant. Est-ce que tu penses que, disons, la religion juive peut aider ? En médecine, dans ton domaine particulièrement.
Je pense que c'est une religion qui fait réfléchir. Oui. C'est une religion, donc, voilà, Torah, ça veut dire enseigner. Lerot, Talmid, c'est étudier. Donc, c'est une religion qui n'a pas, comme je ne fais pas de critique d'autres religions, hein, mais c'est une religion où on se pose des questions. Où on essaye de réfléchir, où rien n'est acquis, et on essaye toujours. Donc ça me plaît beaucoup. Hein. Donc, et effectivement, le problème scientifique et foi, donc, quand c'est dans ce rapport-là, c'est très intéressant. Il ne faut pas donc, critiquer la religion parce que c'est la religion, ou être un ultra-laïcard, et en disant, voilà. Donc ça, moi j'aime bien, tu as compris, les ponts qu'il y a entre les différentes disciplines, et réfléchir, étudier, et voilà. Donc on est des passeurs. Hein, les Hébreux sont des passeurs. Voilà, donc je suis pas un érudit. J'étudie à ma façon et j'aimerais, bon, voilà, je vais aller vers ça. Et tout ce qui est foi, religion et science m'intéresse beaucoup. La pratique, ça sert effectivement à transmettre. On transmet beaucoup par la bouche, donc je mange effectivement kasher parce que pour moi beaucoup de choses passent par la bouche.
Bientôt, comment tu définirais la kashrout à notre époque ? Bon, à l'époque, on comprend, c'était pour distinguer le peuple d'Israël des nations païennes qui faisaient n'importe quoi à ce niveau-là. Mais à notre époque, parce que bon, on sait que par exemple les rabbins disent ce n'est pas de l'hygiène, c'est autre chose. Alors comment tu définirais toi en tant que médecin la kashrout ?
J'avoue que c'est un domaine où je ne suis pas compétent, je pourrais dire des bêtises, et je préfère avoir l'humilité de dire des...
Moi, je
crois déjà que ça sert à nous ancrer dans une certaine tradition et transmettre. Hein. Donc, bientôt, on va avoir les fêtes de Pessah. Pessah, c'est la libération Pessah par la bouche, paix et la bouche. Donc voilà, la transmission orale, les récits et ce que l'on mange. Quand on reste et quand on mange kasher, ben, on reste dans une certaine trace et on transmet peut-être plus facilement que quand on s'en éloigne. Donc déjà. Après, est-ce qu'il y a des règles alimentaires ? Certains ont montré, effectivement, avec des études, que mélanger les laitages, la viande...
C'est plus lourd.
Mais, donc, je ne sais pas.
Oui, non, parce que le professeur Baruch avait beaucoup travaillé aussi là-dessus. Il montrait que, finalement, même si on ne peut pas dire que c'était de l'hygiène au sens moderne du terme, il y avait quand même dans la cache-route des règles qu'on retrouve en médecine, oui. Tout simplement alimentaire.
Il y avait moins de maladies, moins de problèmes, voilà, parce qu'on se lavait les mains. Déjà, les infections nosocomiales, voilà. Si dans tous les hôpitaux, déjà, on pouvait...
À quel point ça a été dur d'installer ça.
Et même ça ne l'est pas encore. Il y a beaucoup de choses. Donc, simplement se laver les mains, faire attention aux aliments, ne pas les mains. Ça faisait déjà prendre une certaine... distance par rapport à certaines pratiques d'époque, une discipline alimentaire qui diminuait effectivement les infections.
Ouais.
Donc ces règles-là sont valables et les Juifs étaient en avance, d'où les problèmes. Ils étaient moins touchés par la peste, et d'où l'antisémitisme qui disait voilà, si eux n'ont pas été touchés, les théories du complot, etc. Au lieu de s'intéresser à ce pourquoi, on essayait de voir toujours une vision complotiste des choses.
Alors, on va peut-être aborder un dernier sujet. Bon, tu vis en France maintenant depuis longtemps, et tu pratiques en France, etc. Est-ce que tu vois une évolution par rapport à l'antisémitisme ? Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que ici en Israël, tout d'un coup, on voit arriver une alia de France. Bon, moi, j'ai fait mon alia il y a 32 ans, mais j'étais le seul. J'ai rencontré quelques Français éparpillés comme ça... en médecine ou en psychiatrie, etc. Mais il y avait très très peu de Français. Maintenant, comment ça vient ? Alors, beaucoup se posent la question ici, mais pourquoi ils partent ? Alors, qu'est-ce que tu as à dire, toi, en tant que juif ?
La France est un très beau pays. Hein. On disait heureux comme juif en France.
On le disait.
On le disait, je dis bien, on le disait.
Oui.
On le disait, et on voit les choses évoluer. Donc, en Israël, je pense qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe là-bas, parce qu'ils sont confrontés à une terreur quotidienne. Mais on voit les choses évoluer. Donc, ce film que j'ai vu hier, là, ce documentaire est magnifique. Il reprenait un livre qui s'appelait « Le territoire perdu de la République ». On voyait que dans certaines... Il n'y a plus un seul juif scolarisé dans les établissements publics dans le 93. C'est quand même incroyable. Mmh. Et un des profs disait, quand on lui parlait d'antisémitisme, il disait qu'il avait eu des élèves juifs. Il disait, ah bon, t'as eu des juifs ? Comme si c'était vraiment une denrée très rare dans le 93, maintenant. On voit les choses évoluer. Je pense que l'Alia, bon, pour l'instant, c'est 7 à 10 000 personnes par an, donc c'est pas énorme. Mais je crois que beaucoup...
C'est un énorme pourcentage par rapport...
Oui, c'est un énorme pourcentage, parce que la France est un pays magnifique, on vit très bien, on a un niveau de vie, on n'a pas à se plaindre. Les gens peuvent se dire, mais pourquoi ils viennent ?
C'est ça.
Parce que là, en Israël, tout est plus difficile.
Mais comment tu as vu cette évolution de l'antisémitisme ? Bon, toi, tu as souffert de l'intégration, ta famille, je veux dire, l'intégration en provenance d'Algérie. Bon, c'était tous les pieds noirs qui souffraient, y compris les
non-juifs. Tous les déracinés, bien sûr.
Mais là... Quelle évolution tu vois
Là, on voit bien donc ce qu'on voyait depuis assez longtemps. Donc, c'est cette montée d'un antisémitisme qu'on n'a pas voulu nommer au départ. Parce qu'il venait de ce qu'on appelait des damnés de la terre, des humiliés, des ex-colonisés. Et donc, on ne voulait pas voir en se disant que quelqu'un qui a souffert, qui a été victime, peut être lui-même raciste. Donc ça, c'était... Il a fallu malheureusement qu'il y ait ces attentats de Charlie, Mera, l'hypercachère, ils n'avaient pas bougé. Il n'y aurait pas eu Charlie, on n'aurait pas beaucoup parlé d'hypercachère, il n'y aurait pas eu cette mobilisation. Donc, on sentait un antisémitisme qui ne voulait pas dire son nom, parce qu'il venait d'un milieu musulman, de certains musulmans, certains jeunes de banlieue, et où c'était très, très, très visible et... Donc l'antisémitisme classique d'extrême droite ou chrétien traditionnaliste a fortement diminué, pas disparu, mais bon... Mais il y a un nouvel antisémitisme dont on n'a pas voulu nommer le nom et que certains ne veulent pas nommer encore et qui me semble très dangereux. Il y a une espèce d'islamofascisme dont les musulmans sont les premières victimes aussi. Parce que tous ceux qui sont en dehors de la doxa, etc. Donc c'est un climat qui est malsain. Je pense que beaucoup de juifs français ont effectivement fait au moins l'alia dans leur tête et sont très inquiets pour l'avenir.
C'est sûr, mais je me rappelle, bon, je ne dirais pas où, mais je donnais un cours dans une banlieue où il y avait pas mal de musulmans. Et le doyen m'a dit, la faculté de médecine m'a dit, il ne faut plus parler de la Shoah, c'est un sujet polémique. Et ça rejoint ce que tu disais par rapport au territoire perdu d'Arabie.
Pas dire où, on peut le dire. Parce que c'est la faculté à Paris 13 où je suis. Donc, faut nommer les choses, hein, je crois que Camus disait ne pas nommer les choses, c'est participer au malheur du monde. Moi, j'étais pas comme ça, mais ma fille, après l'affaire Mera, elle avait été dans les écoles, la dernière fille, du 93 à Aubervilliers. Et ce qu'elle m'a raconté, moi, je ne croyais pas. Et pour les élèves, Mera était un héros. Donc,
tout à fait.
On m'a dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, mais même ici, elle a été vraiment choquée. Et mes enfants ont du mal à accepter, ils ont du mal à, quand on a été élevé, quand on est dans un pays agréable, quand on a... Bon, c'est difficile. Malheureusement, l'histoire, elle nous resserre souvent les mêmes plats, hein, juifs, et on sait qu'on n'est jamais longtemps dans le même pays. Et voilà. Donc, quand on parle de l'Aliyah, effectivement, pour Israël, mais il y a beaucoup de jeunes qui partent ailleurs aussi.
Oui, bien sûr.
Qui partent aux États-Unis, qui partent au Canada, l'Europe, qui partent au Canada, en Australie, etc. Mmh. Et beaucoup de jeunes... plus grave, hein, ce, quand...
Mais disons que l'État d'Israël, c'est différent, parce que on l'appelle l'État juif, et donc on dit aussi, quand on arrive ici, c'est Tachana Sofit, c'est-à-dire la dernière station, ce qui est d'ailleurs difficile à intégrer pour les Juifs, parce qu'on a tellement voyagé, entre guillemets, erré de part et d'autre. Mais voilà, la dernière chose...
Le paradoxe, c'est qu'on se sent plus en sécurité ici, quand on est
en
Israël, alors
évidemment.
Que bon, c'est un pays qui est en guerre, où il y a des attentats.
Mais c'est l'œil du cyclone. Hein.
Et qui a une déprime en France, effectivement.
Alors justement, tu dois avoir pas mal de travail, parce que la déprime entraîne aussi souvent des problèmes dont tu as parlé, hein, en plus posturologie, et problèmes de dos, et problèmes de tout ce qu'on veut. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail, la plupart des médecins le disent, les généralistes souvent sont perdus parce qu'ils se retrouvent devant une pathologie qu'ils ne comprennent pas. Alors ils donnent des médicaments psychiatriques, mais ça ne suffit pas, et ça rejoint ce que tu as dit. Et simplement, tu as dit une chose, tu as dit, c'est surtout cet antisémitisme importé par l'immigration musulmane.
Ou le conflit israélo-palestinien,
oui,
quand on nous dit,
aussi.
Quand on entend, ça me hérisse, enfin, j'ai plus de cheveux, les gens ne voient pas à la radio, mais ça m'hérisse quand j'entends les mots pas d'amalgame ou de poids de mesure. Quand on
écoute... Alors justement, c'est ce que je voulais dire.
Alors que l'amalgame, c'est eux qui le font systématiquement avec le conflit israélo-palestinien, juif-israélien, etc.
Non, puis ça a été aussi un moyen... malheureusement, de réveiller l'antisémitisme traditionnel qui maintenant passe par ce qui se passe ici, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'antisionisme. Ouais.
Il y en a un qui a tout compris, hein, c'est Dieudonné qui a fait vraiment l'amalgame vraiment entre l'antisémitisme traditionnel d'extrême droite, voilà, très proche des nationalistes, Le Pen, les identitaires, etc. Les jeunes de musulmans radicalisés ou antisémites. Et puis, un autre antisémitisme ancien, effectivement.
Tout à fait. Alors, juste pour terminer, donc, tu as parlé de ta dernière fille. Donc, vous avez des enfants, alors, ta femme et toi. Combien d'enfants tu as ?
4 enfants.
Et est-ce qu'il
y en a 3 filles et un garçon.
Et ils font médecine aussi ?
Non, je ne les ai pas poussés à faire médecine, justement par rapport à la situation.
D'accord.
Je me suis dit, faire médecine, c'est rester très longtemps. On voit qu'ici, il n'y a pas encore d'équivalence des diplômes.
Donc, ça vient. On travaille à ça.
Bah, j'espère, parce que
c'est
important.
C'est un scandale.
C'est vraiment important, parce que...
Bien sûr.
Et c'est pour ça que je ne les ai pas poussés à... Mon fils me le reproche parfois, il a fait des études brillantes de commerce, mais... je me suis dit, voilà, on ne sait pas où on sera demain, il faut voyager, il faut connaître des langues, et il faut avoir des métiers qui puissent voyager.
D'accord.
Voilà.
Eh bien, je te remercie beaucoup, Laurent.
Merci à toi.
Parce que ça a été très intéressant de voir tous ces rapports entre, finalement, le corps et l'âme. Et même ce que tu as dit sur le plan du judaïsme ouvre des pistes, mine de rien.
Je suis un petit niveau, je ne peux pas...
Oui. Bon, on parle d'ailleurs de théoneurologie, pour essayer de comprendre les phénomènes chez les très religieux ou mystiques. Enfin bon, tout ça, ce sont des pistes.
Est-ce que je peux te poser une question, moi, à mon tour ?
Oui.
Est-ce qu'il y a une rue Spinoza à Tel Aviv ?
Oui, bien sûr.
Il y en a une ?
Oui. Tu veux y aller ?
Non, je voulais savoir, parce que...
Oui, bien sûr. Il faut savoir que, juste pour terminer, que Spinoza a été réhabilité en Israël. Parce qu'il avait été excommunié, entre guillemets, et il a été réhabilité. Comme Jésus, d'ailleurs, aussi, il y a eu un nouveau procès qui a été fait à la faculté de droit de l'université hébraïque de Jérusalem pour dire que Jésus était innocent. Mais on évolue quand même.
Okay.
Merci et à bientôt.
Merci à toi.
Et bon retour en France et j'espère te revoir rapidement en Israël. Voilà.
Peut-être.
Au revoir.
Au revoir.